RCF. Mon invité avait 36 ans lorsqu'il a rencontré le père idéal. Dès lors, sa vie a basculé. Aujourd'hui, Joël Gabriel est diacre et aumônier interdiocésain du Secours catholique Caritas France des Hauts-de-Lorraine. Il a accepté pour RCF de revenir sur son parcours. Un parcours riche en rencontres et en chutes aussi, mais pour le meilleur, puisque c'est précisément une chute qui est à l'origine de sa conversion.
Témoin quand la foi se raconte.
Bonjour Joël Gabriel.
Bonjour.
Alors, il y aurait bien des façons de débuter notre échange, mais entre nous, j'ai là en tête un épisode très précis de votre vie, rien de confidentiel, puisque vous l'avez partagé lors d'une récollection. C'était le dimanche 19 août 1984. Ce jour-là, vous avez fait une belle chute, hein, vous êtes littéralement tombé de votre lit. Racontez-nous.
Oh, il était environ 8h du matin quand ça m'est arrivé. Donc, j'étais dans une période où j'avais eu un accident, je m'étais rompu les ligaments du genou. Donc il avait fallu une transplantation, c'était compliqué. Donc je marchais difficilement. J'étais peut-être un petit peu énervé aussi parce que j'étais immobilisé depuis très longtemps. Et c'était à cette époque-là, donc on en parlera tout à l'heure, mais j'étais très très loin de l'église. Et voilà que ce matin-là, donc 19 août, vers 8h, 8h15, je ne sais plus bien, je suis tombé de mon lit. Mais littéralement tombé de mon lit, quoi. Donc,
Vous êtes approché trop du bord.
Même, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je me suis retrouvé par terre. Voilà, donc ça fait une impression très très bizarre. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que quand j'étais au sol, donc c'est immédiatement, j'ai eu cette injonction dans la tête, va à l'église, il faut que tu ailles à l'église. Et d'habitude, moi qui ne réponds pas à ce genre de choses, en tout cas qui n'y répondais jamais, je me suis levé rapidement, j'ai fait mon petit café comme d'habitude parce que j'étais accro là, et je suis parti à l'église. Donc.
Mais vous entendez vraiment ces mots en fait?
Tout à fait.
Vous entendez?
Oui.
Va à l'église.
Oui, tout à fait. J'ai entendu ces mots-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlera peut-être de l'appel au diaconat où j'ai aussi entendu des choses.
Et donc vous sentez obligé de prendre vos béquilles et de sortir et d'aller tout de suite à l'église.
Et de partir en courant. Et donc, elle me voit la partie. Donc, mon épouse sort. Alors, je la vois encore. Je vois la couleur du vélo, sa robe de chambre et tout. Elle me rattrape. Et puis, elle me dit, mais tu vas où? Je dis, je vais à l'église. Mais t'es complètement fou.
Là. Elle a dû s'inquiéter pour vous, là.
Non, allez, reviens. Je dis non, il faut que j'aille à l'église. Alors je continue, donc elle me rattrape une seconde fois. Allez, arrête de faire l'imbécile, viens à l'église. Non, viens à la maison. Je dis non, il faut que j'aille à l'église. Elle m'a dit, va où tu veux.
Précision utile, je pense, à ce moment de notre conversation, vous n'alliez jamais à l'église.
Depuis l'âge de 12 ans, donc là j'avais 36 ans, depuis l'âge de 12 ans, j'avais quitté l'église.
Vous voici devant l'église.
Alors, 1 200 km quand même, avec mes béquilles, un petit quart d'heure, hein. Donc ça va assez vite.
J'aurais aimé vous voir.
Me voici devant l'église. Alors c'est extraordinaire, hein, donc peut-être que nos auditeurs vont dire, Joël, il a peut-être tapé aussi la tête par terre. Donc j'ouvre la porte de l'église juste à l'heure où ça allait commencer. Donc, et au moment de franchir le pas de la porte, j'avais quitté l'église avant Vatican II. J'avais très très peu d'éducation religieuse et voilà que... La résurrection me tombe dessus. Pour moi, la résurrection devient une évidence alors que j'avais jamais appris ce que c'était que la résurrection. Donc déjà là, c'est une grande stupéfaction. Et en même temps, j'aperçois au-dessus de l'autel une arche lumineuse. Donc, alors je suis bien souvent les gens qui rentrent à l'église qui n'ont pas été depuis longtemps, ils se mettent au fond. Moi, je suis allé m'asseoir devant, au premier rang. Avec mes béquilles, tout le monde me regardait. Donc, et j'ai l'image de ce jour-là. Donc, je vois encore qui était l'animateur de chant, l'animateur de la célébration, la couleur de leur chemisette et tout. Donc, c'était vraiment incroyable.
Et les autres fidèles, sans doute vous connaissaient-ils, ils devaient être surpris de vous voir ici.
Qu'est-ce qu'il vient faire là? Celui-là, on ne le voit jamais. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui et ça m'aide bien parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont loin de l'église. Je me souviens très bien donc que je suis allé communier et je me pose pas la question si j'étais digne ou pas digne de le faire. Il fallait aussi que je fasse ce pas-là, quoi. Aujourd'hui, c'est bien parce que quand je rencontre des gens qui sont loin de l'église, puis quand je marie ou quand je baptise, puis qui me disent « Oui, mais tu sais, nous, l'église, Je dis, bon, ben, on va pouvoir causer, j'ai les mêmes choses que toi, donc j'ai vécu ça pendant 24 ans, on va pouvoir en parler, donc ça va bien.
Et donc, Joël Gabriel, à partir de ce dimanche 19 août 1984, tous les dimanches qui ont suivi, vous êtes allé à la messe.
En courant.
Seul ou avec votre épouse Mireille ?
Alors, mon épouse, rapidement, est revenue avec moi. Elle est revenue avec moi, donc, et puis on a commencé donc, à avoir une vie religieuse de couple, qu'on n'avait pas du tout avant. Avant, elle pratiquait toute seule, un petit peu toute seule, mais voilà. Donc, c'était vraiment, c'était une vraie folie, cette vie-là, parce que quand on s'est marié, donc Mireille voulait se marier à l'église, on s'est marié à l'église, parce qu'elle le voulait, mais le sacrement de mariage, à cette époque-là, pour moi, ça n'avait pas de sens, enfin, ça n'avait pas de fondement. Aujourd'hui, j'en prends la mesure, d'autant plus que Mireille étant décédée, je vois ça encore d'un autre regard. Et puis les enfants sont arrivés, donc on veut les baptiser, mais moi je ne voulais pas. Donc, il y a eu toutes ces discussions donc, avec mon épouse, avec sa mère et tout. Donc on a baptisé les enfants, mais ce n'est pas pour ça que ça me parlait.
En quelle année avez-vous été ordonné diacre ?
1996, donc j'avais 48 ans.
Donc il s'est passé encore 12 ans entre ce dimanche qui a tout changé et votre ordination.
Oui, tout à fait. Bah oui, parce qu'il a fallu le temps de la formation aussi, le temps de l'appel, le temps de la formation. Donc, et encore, on était une promotion de 8. Les 4 premiers, on a choisi d'être ordonnés 6 ans après la formation initiale. 4 ans, je veux dire, après la formation initiale. Donc ça a été assez rapide, quoi.
La foi se raconte dans Témoin.
Joël Gabriel, avant cette chute étonnante, un dimanche, donc 19 août 1984, j'aime bien donner ce repère très précis parce que vous l'avez communiqué. Et donc, on a ce repère vraiment, un grand marqueur dans votre
naissance,
vie.
C'est une naissance.
Voilà. Avant cela, quelle place avait Dieu dans votre vie ? Où était-il entre votre naissance et ce fameux dimanche 19 août 1984 ?
Je ne savais pas. Dieu n'était pas présent. Alors bien sûr, dans les familles, il y a des décès souvent. Donc, alors j'allais dans l'église pour les funérailles, mais c'est voilà que j'allais à l'église comme dans n'importe quel autre lieu. Donc Dieu n'avait aucun sens pour moi, aucune consistance, rien, aucune relation. Donc, et ce qui était aussi un peu paradoxal, mais peut-être que j'aimais bien ça, quand je rencontrais des prêtres, j'aimais bien les taquiner, quoi. Donc
Votre famille était plus ou moins pratiquante, mais pas vraiment croyante.
Non. Alors, mes parents, mais avec mes parents, on n'a pas eu beaucoup de. D'ailleurs, on en parle avec mes frères et sœurs. Avec mes parents, on connaît pas trop leur histoire. On ne sait pas s'ils se sont mariés à l'église. On ne sait pas comment ils ont traversé la guerre et tout. Donc, on sait peu de choses. Et donc, quand mes parents ont fait comme tout le monde, ils m'ont envoyé au catéchisme. Ils n'allaient jamais à l'église, donc. Mon père était syndicaliste, communiste, cégétiste, donc contre l'Église aussi, sûrement. Ma mère, on n'en parlait jamais, donc j'allais à l'Église comme tout le monde, quoi. Donc mon père n'était pas, et dans toute ma famille d'ailleurs, c'était comme ça, hein, même mes frères et sœurs, on n'allait pas. Donc on allait à l'Église comme encore aujourd'hui, ça se fait encore, parce qu'il faut le faire. Donc on va au cathé, on fait sa première communion, on fait sa profession de foi. Puis après, donc, moi, j'ai arrêté directement après la profession de foi, à l'âge de 12 ans.
C'était comme une activité, finalement, pour vous. Vous faisiez de manière un peu détachée.
J'en ai pris la mesure. En 2008, j'ai célébré le mariage de ma fille dans l'église où j'allais au cathé. Et je leur ai dit, donc, à l'assemblée, là, au prêtre qu'un ami, je disais aussi, je ne me sentais pas à l'aise dans cette église parce que je me rappelais le catéchisme où on était assis dans l'église. Contre le mur, en hiver, il faisait froid, c'était... Je me rappelle que de ça, que de ces choses-là. Ce qu'on m'a appris à l'époque, c'est vraiment... Il n'y a aucune marque, quoi. Donc, il a fallu que je réapprenne tout. Alors donc, après ce 19 août 1984, je suis devenu un boulimique de tout ce qui est texte sacré, commentaire et autres.
Évoquons ce cheminement, peut-être, jusqu'à votre ordination 12 ans plus tard. Tout s'est fait progressivement ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de coup de foudre.
Alors, moi, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit à un prêtre du foyer de charité de la Roche d'Or. Je prenais la chanson à l'époque, c'était une chanson de Cochon, donc j'ai attrapé un coup de soleil.
Voilà. un coup de je t'aime.
Tout à fait. C'était tout à fait les mots que j'ai employés. C'est vraiment ce qu'on appelle le coup de foudre, quoi. Et qui est toujours aussi prégnant aujourd'hui, hein. Ça n'a pas changé, hein. malgré tout ce que je peux rencontrer comme difficulté avec l'Église et avec le monde, cette idée-là, donc, c'est vraiment ancré en moi.
Il y a eu beaucoup de témoins dans votre vie aussi. Vous employez ce mot témoin dans le texte que vous avez écrit en vue de cette récollection où vous êtes intervenu, donc, il y a quelques années. Ce sont comme ça, des personnes qui ont beaucoup compté pour vous et qui représentent aussi des jalons, des marqueurs peut-être.
Tout à fait, des balises, oui, tout à fait. Le premier, donc, il s'appelait Louis. Et Louis, donc, il était directeur d'une école primaire. Et donc, il animait les chants. Et puis moi, j'aimais bien déjà chanter à cette époque-là, même si je ne jouais pas de guitare. Et donc, il a commencé, donc, à partir du dimanche d'après le 19 août, il a commencé donc, à m'écouter, donc, puis à me dire « tu ne voudrais pas chanter et tout ». Donc moi, j'avais la trouille, donc il me faisait chanter de mon banc. Et fin septembre, donc vous imaginez, 19 août, fin septembre, un mois et demi à peu près, fin septembre, il me faisait rentrer dans l'équipe liturgique, alors que j'avais aucune connaissance, aucune base de la liturgie. Et en même temps, donc, les jours d'après, il m'emmenait avec lui aussi dans une chorale. Donc, c'était vraiment. Donc, lui, il m'a appris le béaba de la liturgie, le béaba du chant, et toutes des choses comme ça. Donc, et c'est un directeur d'école, donc il était très exigeant. Quand ça allait bien, ça allait bien, mais quand ça allait pas, comme à l'école. Mais du coup, j'ai appris plein de choses. Donc, ça, c'était en 84, et lui, il est parti en 87. Et en 87, donc. Un soir à la chorale, il me dit « Tu sais que je pars en retraite, donc ça serait bien que tu me remplaces. » Je dis « Non, moi je ne peux pas faire ça, donc je ne sais pas et tout. » La semaine d'après, je le revois, puis il me dit « Bon, je m'en vais bientôt, donc c'est toi qui me remplaces, tu commences dimanche. » Et voilà, donc j'ai commencé comme ça l'animation des chants et puis de la liturgie avec lui. Donc ça, c'était un premier grand témoin. Voilà, je l'ai accompagné, on s'est rencontré souvent. Il nous a fait des formations quand on a monté les équipes baptême, notamment les équipes funérailles, donc c'est lui qui est venu nous former. Donc ça, c'était le premier grand témoin. Après, donc, il y en a eu un autre. Alors celui-là, donc, c'était le responsable de la chorale, justement. Et puis un soir, c'était en fin d'année, donc on faisait le repas de fin d'année. Donc, alors c'était vraiment rigolo parce qu'on était tous déguisés. Et moi, je me souviens, j'étais déguisé en clown. Alors je m'étais mis une perruque rousse, j'étais maquillé de partout, j'avais des grands pantalons, des grandes godasses, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Et puis on s'amusait, et puis le responsable de la chorale, lui, était habillé en vieux vourgien. Donc, et puis avant qu'on se sépare le soir, donc, il me dit, il va voir, je te montre quelque chose. Ça se passait au couvent de Porcieux, et au-dessus de la salle où on mangeait, il y avait un oratoire. Il me dit, viens voir que je te montre. Et donc je découvre une salle de prière, je ne connaissais pas ça du tout. Et puis je vois cet homme-là, qui se met à genoux et qui commence à prier. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Et du coup, deuxième coup de foudre. Donc, rapidement après, j'intègre ce groupe prière-là. Bon, il m'arrive plein de choses. Donc. Presque simultanément, une autre personne vient me voir, une dame qui faisait partie de l'équipe liturgique, vient me voir pour me demander si je voulais bien venir accompagner un groupe de personnes en situation de handicap mental avec ma guitare, les faire chanter, passer une après-midi. Donc, j'y suis allé. Là aussi, je ne savais pas quoi chanter, je ne savais pas comment faire, quelle attitude, quelle posture, j'y suis allé.
Et puis finalement. Vous êtes devant 40 personnes.
Et je me retrouve devant 40 personnes en situation de handicap mental. Waouh, ça fait vraiment un drôle d'effet. Parce que je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Il y en a qui ont peur déjà quand on se rencontre. Il y en a qui sont mal à l'aise. Moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi dire. Ça n'a pas duré longtemps. On s'est retrouvé rapidement après. Et donc, ça, c'était avant l'été, et à la rentrée de septembre, donc, cette personne-là m'invite à un week-end. On organisait 4 week-ends par an avec toute cette. On avait entre 40 et 60 personnes qui venaient. Donc, on louait un bus, on partait dans des maisons familiales et tout. Enfin, c'était. Et donc, le premier week-end, donc, j'y vais. C'était à côté de Saint-Dié. J'y vais tout seul. Et mon épouse a envie de venir. Donc, je suis retourné la rechercher le dimanche. Donc, elle est venue. Et je la vois encore. Donc, elle avait été tellement émue qu'elle en pleurait de voir cette population-là. Donc on a commencé comme ça, on a fait ça pendant 34 ou 35 ans. C'était vraiment une expérience phénoménale. Alors, on n'a encore pas parlé beaucoup de Dieu là, mais ces gens-là, ils m'ont appris plein de choses.
Justement, je crois qu'on en parle.
Oui.
Parce que
il est là.
Il est là, vous avez eu ce coup de foudre,
oui.
Finalement, vous avez eu cette interpellation
tout à fait.
De Dieu, et ça a mené à des rencontres à ces rencontres avec ces témoins qui ont été des marqueurs et qui ont amené encore d'autres rencontres et qui ont fait que vous êtes de plus en plus impliqué et mis au service des autres.
Tout à fait.
Et donc
tout
Dieu est là, je pense.
Oui, oui, voilà. Mais il est là, effectivement, il est tout le temps là. Mais dans notre discussion de ce moment-là, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, je ne le cite pas beaucoup. Mais il est dedans, totalement. Ça, c'est clair. Et donc, avec mon épouse, on a intégré ce groupe-là qu'on appelait Rencontre chrétienne. Et puis, on a été fidèles, oui, pendant 34-35 ans. Et moi, ma partie, c'était principalement la partie musique. Donc, c'est là où j'ai découvert, comme je vous ai dit tout à l'heure, Jean-Claude Janada, entre autres. Voilà, et on essayait donc, pas de faire du catéchisme, de vivre avec une dimension, une relation à Dieu. Et ils m'ont appris plein de choses.
Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de toi, puisque mon cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas, puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon âme pour parler de toi, oh juste mon âme, mon âme et ma foi, si fragile flamme, au bout de mes doigts, dérisoires âmes, pour parler de toi. Même si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas, je sais tellement que l'amour a ses lois. S'il faut le sauver, alors écoute-moi. Je n'ai que mon âme pour parler de toi, oh juste mon âme et ma voix, et mon cœur qui s'enflamme au son de ta voix. Et je n'ai que mon âme pour parler de toi.
Témoin. Quand la foi se raconte.
Joël Gabriel, vous êtes diacre et aumônier interdiocésain du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine. Vous avez accepté pour RCF de revenir sur votre parcours, sur votre conversion. On vient d'écouter à l'instant Jean-Claude Janada, Je n'ai que mon âme, un titre que vous avez choisi. La chanson, tout comme son interprète, sont importants pour vous.
Très importants. Alors, Je n'ai que mon âme pour parler de toi. Je n'ai que mon âme pour te dire. Donc c'est alors Jean-Claude Janada, je l'avais découvert par des CD, des disques, et puis je suis allé plusieurs fois à ses concerts. Et donc 84, je crois, ou 83 ou 84, j'avais rencontré une fois donc à Germainil dans les Vosges, et une fois à Richard Ménil. Je lui avais demandé donc s'il m'autorisait à utiliser son répertoire pour faire quelques chants dans l'église. À l'époque-là, c'était quelques chants. Il m'avait dit qu'il était complètement d'accord. J'avais expliqué le contexte et c'était déjà pour le Secours catholique. Et puis je lui ai dit, mais comment je vais faire pour les droits d'auteur? Mais il m'a dit, vous irez voir la SACEM et vous leur direz que je vous en fais cadeau. Donc du coup, j'ai négocié. Alors le petit truc que j'avais prévu de quelques chants, donc c'est transformé en un concert de 35 chants. Donc 2h30 de concert avec déplacement, projection de diapos. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était en 2005. En 2015, pardon. Et donc, ce concert-là, je l'ai répété 5 fois. Le premier, 35 chansons, et les autres, j'étais limité dans le temps, donc pour une heure et quart, donc c'était un peu plus court. Donc, j'ai utilisé Jean-Claude Janada plusieurs fois, parce que ses paroles, bon, sa musique, on apprécie ou pas la musique, hein, mais ses paroles sont vraiment très, très porteuses. C'est un homme que j'aime beaucoup parce qu'il parle de Dieu souvent sans le nommer, et puis il parle de la vie, des rencontres, des gens, il parle de la pauvreté, de la précarité. Voilà, et comment il parle de la relation. Donc c'est extraordinaire. Jean-Claude Janada.
Des thèmes, des sujets qui vous sont chers à vous en tant que diacre permanent.
Oui, alors, les sujets qui me sont chers, c'est vrai que quand j'ai été ordonné en 96, ma première mission, Alors c'était assez curieux d'ailleurs. L'équipe d'accompagnement avec le responsable qui est devenu évêque à Laval après, avait choisi pour moi la mission, que je n'ai découvert que le jour de l'ordination. Et au moment d'écouter la lettre de mission, donc voilà, je vous envoie dans le monde du handicap mental, vous serez signe de la tendresse de Dieu.
Ça a été une vraie découverte pour vous à ce moment-là.
Ouais.
On n'a pas l'information avant.
Non. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que dans ce que j'avais écrit pour cette réco-là, c'est que j'avais parlé de mon enfance où j'avais été privé de tendresse. J'avais vraiment, oui. Et puis, j'ai rencontré dans plusieurs domaines, donc cette tendresse-là. Et puis, il y a des chants aussi qui sont évocateurs. Moi, j'aimais bien aussi Daniel Guichard quand il chantait à la tendresse, parce que ça me renvoyait à ça. Et voilà que la lettre de mission m'envoie donc pour être signe de la tendresse de Dieu auprès de... C'était extraordinaire.
Parlons de Dieu encore. Je l'ai dit au tout début de notre échange, vous aviez 36 ans lorsque vous avez rencontré le Père idéal.
Oui, oui.
Parlez-nous de ce Père idéal.
Alors, le Père idéal, donc, on avait aussi dans notre parcours avec mon épouse, on avait intégré par exemple les équipes Notre-Dame. Donc, c'était assez exigeant, mais on s'y plaisait bien. Et puis, on allait faire des récos ou des week-ends à la Roche d'Or, à Besançon. On fait une charité de la Roche d'Or. Et donc, au tout début de ma conversion, puisque c'est de ça qu'il s'est agi en 84, moi, j'avais cette vieille image de Dieu, quand j'en entendais parler, de ce Dieu qui juge et tout. Donc, voilà. Et un jour de récollection, c'était sur Dieu, sur le Père. Et j'ai découvert le Père. Alors, j'ai découvert la dimension du Père, donc qui est d'abord tout amour. Et moi, je ne connaissais pas cette dimension-là. Alors, bien sûr, j'avais des enfants, mais je n'avais pas du tout cette vision-là de la paternité.
Parce qu'on a compris tout à l'heure, vos relations avec votre papa étaient très difficiles.
Très difficiles, oui, très difficiles. Et ça a été, mes parents sont décédés en 2001 et 2003. Donc, malgré qu'on était en rupture et qu'on ne se voyait plus, j'ai quand même été célébré les funérailles parce que mes sœurs voulaient que j'y aille. Donc, j'y suis allé, je l'ai fait.
Voilà. Donc, la figure du père, pour vous, ce n'était pas un sujet facile.
Non, et puis c'était quelque chose de négatif aussi, parce qu'il m'avait manqué beaucoup de choses. Quoi, hein, donc, et voilà que je découvre cette dimension donc, divine, le père, donc, comme étant le père de l'amour, quoi, celui qui pardonne.
Témoin. Quand la foi se raconte.
Il y a un évangile qui est très bien, vous l'avez sûrement lu aussi, c'est l'évangile du Père prodigue. Là aussi, il m'a enseigné énormément de choses, cet évangile-là. On voit qu'il y a un des deux enfants qui veut partir, donc il demande l'héritage.
Le Père prodigue ou le Fils prodigue?
Moi, je dis le Père prodigue. Ou plutôt, on pourrait même dire le Père accueillant, quand on relit la lecture. Alors, quand je l'ai développé, je ne développais pas la théologie de cet évangile-là. Moi, j'étais parti dans la relation du Père et de la dimension du pardon. Et donc voilà le fils qui s'en va et puis il dépense tout avec des filles, avec tout ce qu'on veut. Donc il gaspille toute sa fortune et puis un jour il n'a plus rien à manger.
Il revient un peu honteux.
Et puis il décide de revenir voir son père. Il dit là au moins je pourrais peut-être avoir à manger. Donc il doit se dire mais comment je vais lui dire et tout. C'est comme quand on va se confesser, qu'est-ce que je vais dire. Et donc, et le père est là.
Petite parenthèse, souvenir très difficile pour vous, ça. La confession durant l'enfance où il fallait absolument trouver quelque chose à.
Tout à fait. Bon, à confesser. C'est vrai que c'était un des motifs de mon départ de l'église à 12 ans. Parce qu'effectivement, il fallait se confesser. Alors moi, je ne comprenais pas déjà pourquoi il fallait se confesser. Et il fallait surtout s'accuser d'avoir fait des choses. Alors, dans notre famille où vraiment c'était très strict, quand le curé me disait, ou le prêtre me disait, t'as sûrement volé de l'argent dans le porte-monnaie de ta mère. Rien que de penser à ça, moi j'imaginais déjà la volée que j'aurais prise. Quoi. Et donc, je ne pouvais pas comprendre que l'église qu'on parlait puisse me faire. Donc du coup...
Je pense que c'est important de partager cette anecdote et ce souvenir, parce que voilà, ça peut expliquer aussi des choses. On referme la parenthèse, on revient au fils prodigue de retour chez son père.
Et donc alors, le père l'attend depuis toujours. Hein, l'image du père, il attend le retour. Et le père le guette tous les soirs. Quand est-ce qu'il va revenir mon fils? Quand est-ce qu'il va revenir mon fils? Et puis un jour, il le voit à l'horizon et il court vers lui. Alors, dans la tradition sémite, on nous dit que les anciens, les vieux, ils ne courent jamais. Ça ne se fait pas. Les jeunes, ils peuvent courir. Mais là, le père, il court. Il court au devant de son fils, il le prend dans ses bras. Et le fils n'a même pas le temps de lui dire « Père, j'ai péché contre toi, comme on voudrait bien. » Donc, il est revenu et tout. Donc, vite, tuez le veau gras, remettez-lui le vêtement de fête et tout. Donc, il refait partie de la famille. C'est toutes ces choses-là qui sont... Donc, après, on lui remet l'anneau. on lui remet l'anneau. Donc l'anneau, c'est le signe aussi de un peu de notre carte bancaire à nous quand on veut payer. L'anneau, c'est vraiment pour payer donc au nom du Père. Et puis on lui remet les sandales. Alors ça, les sandales, c'est extraordinaire. Parce que les sandales, donc, on les met pour pouvoir marcher et pour pouvoir courir quand on est jeune. Aux esclaves, on ne met pas de sandales. Comme ça, s'ils sauvent pieds nus, ils courent pas vite, on peut les rattraper. Et là, le père, il dit, remettez-lui les sandales. Et puis, il dit au fils, ça ne le dit pas dans le texte, mais il dit au fils, tu es libre, tu as les sandales, tu peux partir, tu peux repartir, tu es libre. Je ne pourrai pas courir après toi, mais tu fais comme tu veux. Donc, il y a cette confiance-là. Donc, moi, ça me donne une dimension du pardon qui est vraiment particulière. Hein, donc, Dieu, d'abord, il nous prend dans ses bras. On parle d'abord de Dieu, on dit, j'ai fait les bêtises, j'ai fait tout ça et tout. Voilà. Il y a cette relation, donc. Et le père, c'est tout ça. Comment on fait avec ses enfants quand on est père de famille, comme je le suis, avec ses petits-enfants? Comment on fait, hein?
Père de combien d'enfants?
Alors, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, donc de 51 bientôt à 39, et 11 petits-enfants, donc de 26 à 15.
Et votre épouse, malheureusement, vous a quitté il y a quelques années.
Oui, voilà, donc je me rappelle d'un prêtre que je connaissais qui est décédé, et son collègue disait, voilà, Dieu l'a appelé à autre chose, il a choisi de partir vers un autre ailleurs. Mon épouse a attrapé une mauvaise maladie, et puis ça a duré pendant 1 an et demi. Et puis elle a quitté ce monde, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant.
Je vais vous lire un extrait de la lettre de Paul aux Romains, parce que c'est un de vos textes de référence, et que vous allez nous expliquer ce que représente ce passage pour vous. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
C'est beau, hein?
C'est très beau.
Alors c'est un texte, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que d'abord il me parle aujourd'hui, mais surtout parce que c'est un texte qu'on partageait avec mon épouse. C'est ni la mort, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Alors c'est une vraie folie ça, hein? On est marié, on a des enfants, on a plein de choses, et puis on dit non, mais le chemin, c'est celui-là, quoi. Donc rien ne nous séparera de tout ça. Alors effectivement, donc, ça peut paraître peut-être prétentieux de dire ça, mais je le vis vraiment. Et je me souviens quand Mireille a attrapé cette saleté de cancer, donc je me souviens un jour aller dans un magasin, et puis un monsieur qui la connaissait, je me dis, alors maintenant, ça y est, vous ne croyez plus en Dieu. Hein. Je dis, ah bon, pourquoi? Avec ce qu'il vous a fait. Je dis, mais il ne m'a rien fait. Il est avec nous en ce moment, il nous aide. Et puis, il ne comprenait pas, donc je change de rayon dans le magasin. Et il me rattrape au rayon de fromage. Il y a des choses qui marquent. Et ça a duré 10 minutes. Quoi. Mais je lui dis, non, je lui dis, quand on dit ni la mort, ni la vie, ni les puissances, c'est la confiance, la foi, elle est là. La foi, c'est je me fie en toi. Voilà, je me réfugie en toi. La foi, c'est ça. Quoi. Donc rien ne peut me séparer. Et il peut m'arriver tous les malheurs du monde. Tout ça me rendra malheureux, c'est sûr. Mais la foi ne doit pas bouger. La foi ne bouge pas. Aujourd'hui, je parle un petit peu de cette expérience-là, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus en parler à tout le monde avec tout ce que j'ai écrit, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à entendre certaines choses. Quoi. Donc, mais voilà, c'est... Mais il y a tous ces textes qu'on a découverts et vécus ensemble. Et il y a le texte de Matthieu 25 aussi. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est riche d'enseignements. Quand on est, comme dans ma mission d'aumônier du Secours catholique, au service des personnes en précarité, en pauvreté ou autre, ce que l'on fait, on ne le fait pas pour eux finalement, on le fait pour le Christ. Voilà, c'est ça, et l'évangile, il nous dit ça. Quoi. Alors l'évangile est compliqué aussi parce qu'au début, il dit « Soyez bénis ceux qui ont fait ça, parce que vous l'avez fait. » Et puis il dit « Allez-vous-en, vous les maudits, parce que vous n'avez pas fait ça. » Et donc ça nous donne aussi la dimension humaine. En nous, il y a cette part où on est capable de faire du bien, et cette part où on est capable de faire du mal. Et donc on a à travailler pour que la part du bien soit plus importante que la part du mal.
Merci Joël Gabriel.